s'amuser. Higgitus, figgitus, zambre capot.
Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait de taille à lutter.
Un peu de zat. De grève. Du gaz de schiste.
De gisement, de gaz de schiste.
Du logement. Toi, du féminisme. Bon, bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Quelle info du vendredi.
Membre du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes toujours sur les ondes du 102.2. Il est 19h passé et c'est bien sûr l'heure du Canu Info. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ?
De grève. Parler de grève. Et on vous passera notamment un reportage sur la mobilisation des grévistes du nettoyage de la société de sous-traitance Arc-en-Ciel de la gare de Perrache.
Et oui, fait par nos camarades du Canu Info du lundi. Et puis on vous fera un retour plus général, cette fois-ci national, sur les grèves qui secouent la France depuis la rentrée.
Et ensuite, on vous parlera de la nouvelle loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur. Et que cette nouvelle loi, en fait, c'est un peu le fantasme de Robocop qui revient sur le devant de la scène.
Et puis, bon, faut quand même se le dire, c'est les vacances scolaires, du coup on ne vous abreuvera pas d'informations ce soir, mais on vous fera évidemment l'agenda et peut-être on vous passera une petite musique. En tout cas, bonne écoute des infos sur Radio Canu.
Canu Info. Partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet.
Rubrique très.
Vive la République, vive la France.
Mouvements sociaux.
Mais notre règne arrivera. Votre règne finira.
Rien ne pervenant pourra étouffer une révolte. Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les bottes.
Une vingtaine de salariés chargés du nettoyage de la gare routière de Perrache sont en grève depuis 2 semaines. Un changement de politique du Grand Lyon dans l'attribution de ce marché public risque de leur faire perdre leur emploi en janvier prochain. Retour sur l'action du mercredi 26 octobre, des grévistes du nettoyage de la société de sous-traitance Arc-en-Ciel de la gare de Perrache. Action qui a eu lieu à la métropole. Et pourquoi la métropole ? Parce que c'est finalement le véritable patron des 22 salariés menacés d'être licenciés. Et du coup, on était, en tout cas, nos camarades du Canu Info du lundi étaient avec les grévistes à ce rassemblement mercredi. Il y a eu du bordel dans et à l'extérieur de la métropole. On vous laisse écouter.
Après toute l'après-midi, si vous êtes dispo, en fait, eux, ils vont à l'annexe et ils rencontrent les autres étudiants et tout. Je pense que c'est pour y aller.
Allô, ça va ?
Ici, on est venu, c'est pour la deuxième fois qu'on vient, demander qu'on soit reçu par un élu, quelqu'un qui nous écoute, parce qu'apparemment, la dernière fois, quand on est venu, notre message n'est pas passé, ou il est mal passé. On est là pour revendiquer notre poste de travail. On est des agents de l'entretien de la gare de Perrache, le centre d'échange. On est 22 salariés, 22 familles, qu'on travaille pour la métropole de Lyon depuis 20 ans, 30 ans. Comment dirais-je, c'est en sous-traitance. Ça veut dire qu'il y avait des sociétés, qu'on a connu plusieurs sociétés, qui viennent, qui partent, qui viennent, mais nous on restait sur place. L'année dernière, exactement au mois de juin, on a fait une grève. Après une longue année de souffrance, de maltraitance, d'harcèlement, etc., on a dit stop, etc. Et ils nous ont entendus, pour être honnête avec vous, parce que les personnes qui nous harcelaient sur le site, etc., ils sont partis. Et cette année, à notre surprise, au mois d'août, ils font descendre l'appel d'offres. Mais ils mettent une condition que ça sera attribué le marché seulement à une association d'insertion, sachant que nous, en tant qu'agents d'entretien, on n'est plus protégé par l'annexe 7, c'est qui nous permet de rester même s'il y a un changement de société.
Oui, parce qu'il y a des appels d'offres tous les 4 ans en général.
Tous les 2-4 ans. Ouais. 2 ans chacun. Avant, c'était 2 ans renouvelables, quoi. Voilà.
Et du coup, là, vous n'êtes pas venu tout seul aujourd'hui ?
Oui, franchement, à ma surprise, j'étais pas trop surpris personnellement parce que Madame Rachel Keke, elle a proposé de venir. C'est elle qu'elle a proposé, on ne l'a pas contactée. Personnellement, je ne la connais pas. Elle a entendu qu'on mène une bataille sur la sous-traitance. Elle avait beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Elle nous a proposé, on était très contents, même pour le moral des salariés, qu'on est en grève depuis 15 jours, 2 semaines exactement. Ça nous fait du bien et je crois qu'avec un député à nos côtés, on sera plus...
D'autant que ça met la majorité écologiste de la métropole devant ses contradictions, puisque Rachel Keke est élue de la NUPES, ouais. Et que c'est aujourd'hui des écologistes qui font partie de la NUPES qui se lavent les mains de la condition qui est faite aux salariés d'Arc-en-Ciel aujourd'hui.
Exactement, la preuve, on peut être de la même famille, mais on peut être d'accord.
Alors Rachel, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on fait ici devant la métropole de Lyon ?
Mais nous, je suis devant la métropole de Lyon pour dénoncer les systèmes qu'ils ont envers, avec la sous-traitance envers les salariés. Parce qu'ils ont ces manières de, à chaque fois, de lâcher les salariés, de les mépriser. Et voilà, donc il faut dénoncer ce système pour qu'arrive un moment, ça s'arrête.
Et toi, tu as mené une longue lutte. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Mais c'est le même système, c'est ce que je disais. D'où je dis la sous-traitance est égale à la maltraitance, le mépris. Parce que retenez bien qu'à l'Assemblée nationale, il y a un salarié de la sous-traitance qui est décédé comme ça sur son lieu de travail. Voilà, et qui est resté silencieux, que les gens n'ont pas vraiment discuté de ça. Donc, c'est pour dire que la sous-traitance, c'est la maltraitance. Nous, on a vécu ça avec mes collègues pendant 22 mois. Non sous-traitant, c'était STN. Parce que le groupe accord qui dit que je ne sais pas faire, c'est pour ça que je sous-traite. Mais si tu as le droit de sous-traiter, mais derrière, voir la sous-traitance pour pouvoir donner des meilleures conditions à ces salariés qui travaillent. Non. D'où je dis qu'ils sont complices. Ils sont complices de cette sous-traitance-là. Parce que ils savent très bien comment la sous-traitance méprise les salariés, comment ils profitent de ces salariés, comment ils ne les payent pas bien, les bas salaires, les traitements inhumains. Ils le savent très bien. Et ils ne disent rien parce qu'en faisant ça, ils gagnent beaucoup de l'argent. Voilà, c'est des gens qui sont, c'est des sociétés qui sont vachement riches. Ils sont vachement riches. Et nous, on a dit stop. On a dit stop parce qu'avec 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres, mais à la fin du mois, on se retrouvait avec 800, 1000 euros, 1200 euros. Mais arrivé un moment, il faut dire stop. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous, on n'était que des féministes. On a dit stop, on s'est battu, on a tenu tête au groupe accord. On a dit au groupe accord, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Parce que dans cette histoire, nous avons notre collègue qui a été violé par l'ancien directeur du groupe accord. C'est-à-dire plus avec le mépris et en plus avec le viol derrière. Mais on ne pouvait pas continuer comme ça. On ne pouvait pas continuer comme ça et on a combattu. Et c'est la même chose que la métropole fait aux salariés d'Arc-en-Ciel, qui est la sous-traitance. Pour dire que oui, ce ne sont pas nos salariés. Mais on ne les connaît pas. Mais comment faire avec eux ? Mais c'est la même chose que le groupe accord nous disait. Nous disait que nous ne sommes, vous n'êtes pas nos salariés, vous êtes les salariés d'Estienne. Estienne nous disait que non, nous, on n'a pas les moyens de régler le conflit. C'est au groupe accord de décaisser l'argent. Donc, c'est comme des, c'est-à-dire un ballon de rugby. C'est-à-dire, l'autre, on nous jetait par gauche, par droite. Mais à la fin, quand on a tenu tête, qui a débloqué la situation? C'est bien le donneur d'ordre qui est le groupe accord.
Bien sûr, c'est, le, voilà. C'est celui qui a la responsabilité.
Voilà, donc, la métropole, ils sont responsables de ces salariés-là. Donc, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités en main pour pouvoir trouver des solutions des salariés au lieu de les jeter comme ça dehors.
Et pourquoi c'est important pour toi d'être présente sur ce genre de moment?
Mais parce que, comme je disais dans ma campagne, je serai la voix des sans-voix. Parce que ces métiers essentiels qui sont invisibilisés, on ne les attend pas. On ne les attend pas. Tant que, si moi, quand je me déplace, que je viens, qu'il y a les médias, ça les visibilise. Les gens savent exactement qu'est-ce qui se passe. Et moi, ça me fait vraiment plaisir d'être là, de parler de cette lutte, de ce combat-là, pour que les gens puissent voir comment on traite ces salariés. C'est inhumain, c'est pas normal.
Bah, moi, je viens des autres entreprises, mais par contre, la société Arc-en-Ciel, d'entreprise en entreprise, après, ancienneté. De l'ancienneté, ça fait 20 ans. 20 ans d'ancienneté. Okay. Mais par contre, tout le monde de la PRH, j'ai commencé depuis 2007. 2007 jusqu'à 2022. Voilà.
Et tu as connu combien d'entreprises différentes à PRH?
Bah, on est de service, Samsic. On est de service et Samsic, oui. Samsic et maintenant c'est Arc-en-Ciel.
Et du coup, là, le fait que le marché il soit proposé qu'à des associations d'insertion, pour toi, ça veut dire quoi?
Nous, on va trouver, le métropole Lyon, il va nous débarrasser des gares, le PRH. Parce que cette société-là, ce n'est pas une société, c'est une association de gens handicapés. Et peut-être, ils vont faire le travail et en même temps, ils vont nous donner des aides. Mais par contre, cette association, ils ne prennent pas à nous. Ils ne prennent pas à nous parce que ce n'est pas pareil comme à Annex 7. Ouais. Annex 7, c'est entrer en société d'Annex 7. Là, ils sont obligés à prendre à nous. Mais comme c'est une association, ils ne sont pas obligés. Et maintenant, c'est pour ça que nous faisons la grève pour Métropole de Lyon nous donner une décision. Si nous va rester là ou pas. Mais si nous ne restons pas là, normalement, il faut négocier avec le métropole de Lyon.
Et du coup, là, ça fait déjà 15 jours que vous êtes en grève. Tu penses que vous êtes prêt à continuer longtemps? Comment tu sens le moral des grévistes?
Moi, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai dit, jusqu'au 2 de novembre, et là, si je n'ai pas donné une réponse, je crois que je vais continuer.
Du coup, comment vous expliquez que le marché, il était maintenant, il soit ouvert uniquement à des entreprises d'insertion, ce qui exclut totalement les salariés d'Arc-en-Ciel d'une nouvelle appel d'offres?
Je suis désolé, je ne vais pas vous répondre. Je vais juste.
Ouais, parce que là, vous êtes en train de reporter le problème sur les entreprises capitalistes. Oui. Du coup, expliquez-nous pourquoi vous proposez ce marché.
Je ne vais pas répondre sur le fond. En fait, la métropole a reçu plusieurs fois les syndicalistes ces dernières semaines, ces derniers jours.
Non, pas plusieurs fois.
Si.
Non. On est là. Elle a reçu. Oui. On est là.
Une fois, et elle a accepté de recevoir 4 personnes.
4 personnes.
En fait, vous, je ne comprends pas. Vous soutenez le patron ou les salariés? Je ne comprends pas. Parce que j'arrive pas à comprendre.
Faudrait échanger avec recevoir avec la vice-présidente sur le sujet et éventuellement d'autres élus qui sont en charge. Moi, je ne suis pas en charge de ce dossier-là. Évidemment.
Ah, vous êtes en charge de ce
dossier. Vous n'êtes pas en charge,
non,
vous venez parler. C'est ça la politique de la métropole. Vous n'êtes pas en charge du dossier et vous venez parler de quoi? Si on ne maîtrise pas quelque chose, moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études, on ne parle pas. De préférence, on ne parle pas. Et on était reçus la semaine dernière, une fois, et on était jetés comme des malpropres. Allez-y voir Métropole Pôle emploi. C'est tout ce qu'on a reçu comme rapport. Vous parlez au nom d'Arc-en-Ciel que vous ne la connaissez pas. Arc-en-Ciel, elle a été créée en 2019. Elle a eu le premier marché, c'est la gare de PRH. On a exactement sur Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes. Attendez. Non. Ça, c'est PEI et autre chose. Je parle d'Arc-en-Ciel. On a 370 salariés sur la région. D'accord? Nous, les 22 salariés, une masse salariale de 50 000. Elle n'a pas où nous mettre. Je m'en fous, je ne défends pas l'arc-en-ciel, mais vous ne donnez pas des fausses informations comme ça, s'il vous plaît. Je vous avais dit dès le départ, j'étais gentil, si vous ne maîtrisez pas le sujet, ce n'est pas la peine de parler. Vous ne dites pas, nous, demain, si la métropole ne revient pas sur sa décision, on va se trouver dans la rue. On sera licencié d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez ?
Mais c'est ça en fait.
Vous comprenez ?
Je comprends que les discussions elles ont lieu avec
la métropole de Lyon, avec votre politique d'insertion, pourquoi vous n'avez pas proposé à Arc-en-Ciel de partager ? Réduire l'effectif, faire de l'insertion, nous on les accompagne. Nous on les forme. Nous on tient la gare. Mais par contre, votre politique, elle est fausse dès le départ. Pourquoi ? Parce que vous avez vendu la gare de Perrache. Elle est privatisée et les travaux commencent. Quand ? Fin 2023. Alors ne me dites pas que votre politique pour l'insertion, vous faites pour 8 mois. Pourquoi l'insertion ? Parce que vous pouvez virer les gens facilement, parce que ça ne vous coûte pas cher. C'est ça.
Aussi,
c'est pas l'insertion.
C'est responsabilité politique.
Il y a des gens qui ont 33 ans, ils ne travaillent pas pour Arc-en-Ciel. 33 ans. Ils n'ont pas travaillé pour Arc-en-Ciel, excusez-moi. Moi j'ai 12 ans, je n'ai pas travaillé pour Arc-en-Ciel. Je travaille pour plusieurs. Je travaille pour la métropole de Lyon. D'accord ? C'est d'une manière ou d'une autre. Nous, on travaille pour la métropole de Lyon. Moi, je ne vais pas dire je travaille chez Arc-en-Ciel, je travaille à Perrache. Vous comprenez ? C'est qui donne l'ordre ? C'est qui fait les appels d'offres ? C'est qui paye ? C'est le métropole de Lyon qui paye.
En fait, ils nous ont reçus. La dernière fois que vous nous avez reçus, la seule réponse d'un métropole, c'est il y a Pôle emploi. Et il faut aller voir le service de la préfecture et contacter Pôle emploi. Ouais, c'est la seule réponse que vos services nous ont fournie.
Ce qu'ils ont que le courage de...
L'élu que vous avez entendu, c'est Benjamin Badoir, c'est le président du groupe écolo de la métropole. Et oui, il continue à dire que c'est pas la métropole qui est responsable du licenciement. Alors qu'en fait, c'est bien la métro qui fait un appel d'offres pour que ce soit plus Arc-en-Ciel qui soit le sous-traitant. Et donc ça a pour conséquence le licenciement des salariés de 20 à 30 ans de taf à la gare de Perrache pour certains, pour certaines. Alors que la grève des agents d'entretien dure depuis le 10 octobre dernier dans la gare de Perrache, la métropole de Lyon se défausse de toute responsabilité. Les salariés en grève vont donc bel et bien perdre leur emploi au 1er janvier prochain si rien n'est fait. Alors aujourd'hui, on a appris que la métropole dit avoir alerté le préfet du Rhône de cette situation extrêmement dégradée qui ne saurait se prolonger. Alors on est d'accord sur le constat, hein, la situation ne saurait se prolonger, on voit pas bien qu'est-ce que vient faire la préfecture là-dedans. Et en tout cas, on vous appelle à soutenir ces grévistes qui sont sur place. Vous pouvez aller sur place à Perrache. Vous pouvez aussi participer à la caisse de grève. Vous la trouvez sur un site qui s'appelle papayou-solidarité.com. Mais si vous tapez collecte gare routière de Perrache, agent de service en grève, vous trouverez. Vous pouvez aussi vous rapprocher de la CNT SO 69 pour soutenir cette mobilisation. Et on espère vraiment qu'elle sera victorieuse. Et oui, depuis la rentrée, il n'y a que des grèves, les blocages se multiplient, notamment autour des revendications salariales. À Gennevilliers, par exemple, les salariés de Géodis, qui c'est un géant de la distribution, sont en grève reconductive depuis le 17 octobre pour exiger des augmentations de salaire. Travailleurs précaires, souvent issus de l'immigration, ils montrent l'exemple face au mépris de leur direction. Donc depuis le 17 octobre, ces salariés de la filiale de la SNCF sont en grève reconductive sur le dépôt de Gennevilliers, avec près de 75% de l'effectif qui suit le mouvement. On rappelle quand même qu'on est dans un contexte où l'inflation a atteint 6,2% pour le mois d'octobre, que ces travailleurs ne touchent souvent pas plus de 1400 euros par mois et revendiquent une augmentation de salaire de 150 euros pour tous et toutes. On note quand même qu'à chaque fois, les revendications, elles sont basses quand même par rapport au taux de précarisation des travailleurs et des travailleuses depuis des mois et surtout depuis des années. Donc eux, c'est des travailleurs de la logistique qui subissent des conditions de travail difficiles. Leur métier consiste à transporter des colis qui peuvent aller jusqu'à 70 ou 80 kilos. Rien que depuis le début de l'année, le seul site de Gennevilliers a enregistré une centaine d'accidents du travail. Voilà, que dire à part bon courage à eux aussi. Et comme je vous le dis, les mobilisations se multiplient. Par exemple, au Havre, chez Safran Nacelle. Les travailleurs de chez Safran Nacelle, c'est un fabricant de nacelles pour les moteurs d'avion près du Havre, sont en grève depuis plusieurs semaines, eux pour 3% d'augmentation générale des salaires, là encore pour tous et toutes. peut vous dire aussi que, alors que les raffineurs ont mis sur le devant de la scène la question de l'augmentation des salaires et de la méthode de la grève reconductible comme moyen de lutte, ce phénomène s'étend donc à plusieurs secteurs, comme on vient le voir, la logistique ou encore la fabrication ici de nacelles. Et la mobilisation, ça paye. Par exemple, si on va du côté des grévistes de Keolis, eux, ils ont réussi à avoir une augmentation de salaire. Il y a eu un accord de fin de conflit qui a été signé après 10 jours de grève des conducteurs de l'entreprise de transport Keolis, là encore une filiale de la SNCF. Des augmentations de salaire ont été obtenues après 2 ans de pandémie durant lesquelles celles-ci ont été gelées. Cette lutte s'inscrit dans un contexte de tension par contre grandissante en Île-de-France, où le réseau de bus, métro, transilien et tramway est partout découpé en lots, soumis aux appels d'offres, avec une dégradation des conditions de travail en conséquence. Et puis finalement, cette grosse mobilisation, elle a un peu commencé quand on a parlé du gasoil il y a un mois, et notamment du coup des multiples raffineries qui s'étaient mises en grève, et évidemment la raffinerie de Fezzin dans nos régions. Et on en parle beaucoup moins, mais comme des grèves dont on vient vous nous parler, c'est assez fou comme il y a peu de suivi médiatique de tous ces secteurs qui sont aujourd'hui en grève. Mais du coup à Fezzin, ça continue un mois jour pour jour après le début du mouvement. 90% des salariés du site de Total Energy de Fezzin ont reconduit la grève hier, 27 octobre, avec des revendications locales qui ne portent plus sur une augmentation des salaires, mais sur des embauches et des investissements. Les grévistes déplorent toujours l'absence de négociations avec la direction. Ils l'accusent de mettre en danger les intérimaires, le site et la population, a indiqué la CGT dans un communiqué. Alors le 24 octobre, ils avaient adressé un courrier au préfet du Rhône pour réclamer un médiateur de la République et tenter de débloquer la situation. Il faut savoir que les mesures préfectorales visant à assurer la continuité des missions du service public et prévenir le risque de tension dans les files d'attente, donc là on vous parle de est-ce qu'il y aura ou non de l'essence à la pompe à essence, ont quant à elles été prolongées dans le Rhône et la métropole de Lyon. Donc ça veut dire que certains véhicules pro peuvent bénéficier d'un accès prioritaire à 6 stations du département, tandis que la vente et l'achat de carburant dans des récipients transportables sont toujours interdits. Et qu'est-ce qui s'est passé ce matin? La préfecture a refait encore des réquisitions. 7 salariés grévistes ont ainsi été réquisitionnés pour le quart de 6h, 7 également pour le quart de 14h. Il n'y avait pas eu de réquisition du personnel depuis samedi dernier. Et pour la CGT, les réquisitions sont injustifiées à ce jour. Et la CGT met en avant que la situation s'était améliorée dans les stations-service. Donc voilà, là encore, soutenons les grévistes. Cette grève, elle n'est pas finie. Ça demande d'être présent sur les piquets de grève et surtout de participer financièrement aux caisses de grève. Là encore, c'est facile de trouver la caisse de grève de Fezzin. Il faut se rendre soit à Fezzin, soit chercher sur Internet.
Canu Info du vendredi.
Vous avez un emploi, monsieur Lebowski?
Permettez-moi de remettre les pendules à l'heure.
Commandant, c'est toujours là.
On n'est pas là pour philosopher, carpentier.
Quand même, c'est incroyable.
Et oui, tout ça, ça parle de l'emploi et du mépris du gouvernement vis-à-vis de l'emploi. Pour vous donner encore un dernier petit exemple, on peut vous parler du ministre des Solidarités pour qui une assistante maternelle gagne 3 SMIC par mois. Et oui, lors d'une séance publique à l'Assemblée nationale, le ministre des Solidarités Jean-Christophe Combes a affirmé que les assistantes maternelles gagnent en moyenne 3 SMIC par mois. Après nous avoir dit que les personnes travaillant chez Total gagnaient 5 000 € par mois, on est toujours assez estomaqué de voir leur connaissance réelle des salaires des Français et des Françaises. Donc cette affirmation lunaire est un crachat au visage des travailleuses de secteur qui sont bien souvent précaires. Cette énormité a été proférée mercredi lors d'une séance publique à l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce qu'il a dit exactement, ce ministre? Il a dit une assistance maternelle gagne en moyenne 1 SMIC par enfant gardé. Donc, en général, elle en garde 3. Donc, elle gagne 3 SMIC. Interpellé par d'autres députés, il a été obligé de vérifier ses calculs pour se rendre compte qu'il arrivait péniblement à... sur 1 SMIC de salaire mensuel pour 3 enfants gardés. Le taux horaire des assistantes maternelles employées par les particuliers est en effet de 3,18 euros bruts, soit moins d'un tiers du SMIC. Donc voilà, c'est vraiment un mépris total vis-à-vis de ces travailleuses qui sont payées au lance-pierre, qui travaillent sur des horaires très étendus et souvent en contrat précaire quand elles sont dans le public. Un secteur qui par ailleurs a été frappé de plein fouet par la précarité avec la multiplication du télétravail lors des confinements. C'est une marque de mépris d'autant plus forte que cette remarque a été proférée dans le cadre d'une discussion sur le thème du plafonnement de leur salaire maximum. Il faut savoir que cette personne, c'est l'ancien directeur général de la Croix-Rouge, qui a ainsi fait la démonstration de sa profonde déconnexion du quotidien et des difficultés de la population. Voilà, en fait, je me suis rendu compte en préparant cette émission qu'on aurait pu vous en parler des heures comme ça et des mobilisations dans plein de secteurs différents partout en France. Par exemple, je me suis rendu compte qu'à Paris, il y avait plein de personnes qui se mettaient en grève dans les piscines. Parce que pareil, elles sont payées à coups de lance-pierre. Il y a des personnes, ça fait 20 ans qu'elles travaillent là à temps plein, qu'elles sont payées 1000 denettes par mois. Ces mobilisations, elles se multiplient, elles se coordonnent pas encore toujours, elles sont surtout très peu médiatisées, mais on leur souhaite tout et tout bon courage parce qu'elles sont aussi le signe vraiment d'une précarisation croissante de toute la population.
Rubrique.
Oh non. Alors j'ai voulu vous repasser mon petit jingle pas content, mais j'ai pas réussi. Et du coup, pour terminer, pour vous dire que voilà, à Lyon, on peut aller et à Fezin et à Perrache. Que les journées de mobilisation nationale, la prochaine c'est le 10 novembre, même si on ne sait pas bien ce qu'elle va donner, qu'on peut en attendant aller voir sur le terrain les personnes qui se mobilisent, et que par exemple à l'illégalité le 5 novembre, donc ça veut dire pas ce samedi mais samedi prochain, il y a une cantine discussion sur les grèves en cours et les stratégies collectives à venir, ça s'appelle Depuis les grèves, voir l'horizon. Et ça donne un peu à discuter, il y aura des grévistes de Perrache, d'Arquemin, de Fezin, il y aura des cheminots et des cheminotes. Ça a l'air assez sympa, pour vous lire un peu le descriptif, ça dit « À Lyon et alentour, le début de l'année a été rythmé par plusieurs grèves, chez Arquemin d'abord, puis chez les agents de propreté à la gare de Perrache. Dans le même temps, la raffinerie de Fezin, dont les grévistes ont fini par être réquisitionnés, ainsi que la centrale du Bugey, ont entamé une grève simultanée. » La grève est-elle encore un outil de lutte stratégique pour gagner des batailles? Un mouvement révolutionnaire peut-il partir d'une grève? Comment établir des solidarités concrètes avec les grévistes? Quelle nouvelle forme de grève peut-on inventer? En ces temps d'inflation et de dégainage du 49-3, les raffineries ont sonné la rentrée sociale. Voilà, la colère est là, en même temps il y a les blocages lycéens. Il est difficile de savoir ce qui va se passer dans les prochains mois. Pour nous aider à mieux lire la situation en cours, nous prendrons le temps de discuter avec des grévistes de Lyon et alentour, le temps d'une soirée autour d'un bon repas. Moi, en tout cas, je me dis que ça fait envie de participer à ces moments pour construire ensemble, en dehors aussi des temps de mobilisation et de manifestation. Donc, rendez-vous à l'illégalité le samedi 5 novembre à partir de 17h. L'illégalité, c'est 6 rue de l'égalité à Villeurbanne, à Cusset. Et du coup, je pense que je vais réussir à vous passer notre prochain jingle.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et oui, donc il y a plein de grèves de partout. Heureusement, notre cher gouvernement a trouvé une solution. La sécurité, parce que c'est un problème de sécurité, vous savez. Tout est un problème de sécurité. Et donc, ils ont torché une nouvelle loi d'orientation et de programmation. Donc là, proposée par le ministère de l'Intérieur. Et qui a été validée par le Sénat. Et donc là, ce que je vais un peu vous raconter, c'est basé sur un communiqué de l'Observatoire des libertés et du numérique. Qui a été publié ce jour même. Voilà. Donc, alors, cette loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, avec un nom de code qui s'appelle l'OPMI, je ne sais pas si on le prononce comme ça, mais bon, bref, moi je le prononce comme ça, donc, a été adoptée par le Sénat et va être débattue à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines. Et alors, cette loi de programmation est accompagnée d'un rapport qui est sans valeur législative, mais qui en dit long sur les ambitions gouvernementales. Les 85 pages décrivent une vision du policier cyborg. Véritable machine qui, tel Robocop, traquera les malfrats, exécutera les sentences. Donc c'est une vision du policier bardé de gadgets numériques connectés à l'infosphère assistée de ses drones. Donc voilà, dans le texte, on a des mots comme exosquelette, tenue intelligente, comprenez, c'est un peu comme les smartphones, c'est-à-dire comprenez bourré d'équipements de surveillance, caméra piéton ou embarquée, casque de réalité augmentée pour interroger les fichiers à la volée. Donc cette projection délirante se poursuit sur d'autres thématiques sécuritaires. Le ministère affiche par exemple la volonté de créer des frontières connectées avec contrôle biométrique, drone ou capteur thermique. Bien sûr, il y a encore et toujours la fameuse vidéosurveillance et ils en veulent encore plus puisqu'ils appellent à tripler le budget malgré l'inutilité démontrée et le coût immense de ces équipements. Ensuite, autre objectif clair, supprimer tout ce que la procédure pénale pose comme entrave aux policiers du futur. Donc la procédure pénale est uniquement vue dans ce rapport comme une lourdeur administrative donc inutile et inefficace. En gros, elle empêche les flics de faire leur boulot. Donc à la poubelle, les quelques règles mises en place pour protéger les personnes contre l'arbitraire de l'État. L'Observatoire des libertés et du numérique, d'ailleurs, s'étonne que le texte soit principalement porté par le ministère de l'Intérieur, alors qu'il s'agit en réalité d'une refonte importante de la procédure pénale, qui semble plus relever de l'organisation judiciaire. En tout cas, l'ambiance, c'est plutôt de banaliser les opérations de surveillance en les rendant accessibles à des agents moins spécialisés, et en les soustrayant au contrôle de l'autorité judiciaire. Il y a aussi l'idée de faciliter encore plus les interconnexions et accès aux fichiers policiers, notamment la collecte de photographies et l'utilisation de la reconnaissance faciale dans le fichier TAJ, c'est le fichier de traitement des antécédents judiciaires, ainsi que l'analyse de l'ADN dans le fichier national des empreintes génétiques, contribuant à faire davantage tomber les barrières pour transformer le fichage massif en un outil de plus en plus effectif de contrôle des populations. Un des articles dans cette loi d'orientation, un des articles rend possible la consultation des fichiers pendant une enquête ou une instruction. Sous prétexte de ne plus avoir de nullité de procédure, cette simplification soustrait les policiers à toute contrainte formelle et supprime une garantie fondamentale de protection du droit à la vie privée. Cette disposition permettrait un accès total aux fichiers et viderait par ailleurs de leur substance l'ensemble des textes existants visant à limiter l'accès, pourtant déjà assez souple, donc à limiter l'accès pour chaque fichier à une liste de personnes habilitées et déterminées. Donc ça, c'est fini. Enfin, on n'espère pas, mais en tout cas, c'est ce qui est dans le texte. Donc, après avoir multiplié les fichages en prétextant des garanties, donc ça, c'était c'est fait d'année en année, voilà, on en vient maintenant à faciliter les accès et les interconnexions. Alors, clairement, le gouvernement fait passer la répression et la surveillance comme l'outil principal du travail policier et affaiblit considérablement le socle de la protection de la procédure pénale. Le projet vise à étendre un peu plus, notamment, le champ d'application de l'amende forfaitaire délictuelle, qui est déjà un truc assez affreux, dont l'efficacité prétendue n'est mesurée qu'au nombre d'amendes prononcées et à la rapidité de la sanction. Alors, une amende forfaitaire, c'est une sanction pénale prononcée par un agent de police en dehors d'un procès. Il n'y a pas de procès, mais l'infraction est inscrite au casier judiciaire. Principalement utilisée à l'origine pour sanctionner les contraventions routières, elle s'est élargie progressivement, tiens donc, à d'autres contraventions jusqu'à concerner également des délits, notamment l'usage de stupéfiants, l'occupation illicite de terrains publics ou privés ou l'occupation des halls d'immeubles. Et donc là, ben, ils veulent la généraliser pour tous les délits passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à un an de prison. Donc par exemple, là-dedans, il y a la participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser ou outrage à agent. Tiens donc. Donc voilà, cette amende forfaitaire repose sur un usage de l'outil numérique permettant d'industrialiser et d'automatiser le fonctionnement de la justice pénale en affaiblissant les garanties contre l'arbitraire, entravant le débat contradictoire et en transformant l'autorité judiciaire en simple contrôleur qualité. Voilà, voilà, voilà. Les forces de l'ordre sont transformées en radars mobiles de multiples infractions, le tout sans véritable contrôle judiciaire et en multipliant les obstacles à la contestation pour la personne qui est sanctionnée. Donc voilà, ce rapport, c'est un pas de plus en moins vers la liberté. On sait pas trop... Alors, vu l'ambiance générale, moi, je vous cache pas que j'ai un peu peur que l'Assemblée l'adopte à bras ouverts. Bon, voilà, on va pas faire de mauvais pronostics. Mais voilà, ça fait quand même bien bader.
Soyons sur nos gardes.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est le Canu Info et on vient d'écouter Yves Bernard avec le titre Objectif et compétences. Et tout de suite, c'est l'agenda.
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est
l'agenda.
Et une fois n'est pas coutume, on commence l'agenda par une information qui n'est pas locale. Et oui, c'est parti. Il y a une grosse mobilisation contre les bassines au chantier de Sainte-Soline. Ils tentent de passer en force. Les travaux de la méga-bassine de Sainte-Soline, alors ça c'est dans les Deux-Sèvres, ont commencé. Le compte à rebours a démarré jusqu'à la méga manif qui aura lieu demain. Et donc, on nous a invités à relayer cet appel et on se dit, allez, peut-être vous faites le pont, peut-être vous savez pas encore quoi faire de votre week-end, la manif elle est que demain. Donc, on va vous lire quand même cet appel pour cette grande manif qui commence à 10h. Face au mouvement populaire de défense et de partage de l'eau, le gouvernement et les lobbies agro-agro-industriels n'ont pour l'instant qu'une seule réponse, le passage en force. Ils viennent de donner le coup d'envoi du chantier de la méga-bassine de Sainte-Soline, la plus grosse en projet actuellement, en entourant des grillages les 16 hectares des terres rouges dans les Deux-Sèvres. Nous appelons donc à converger massivement les 29 et 30 octobre, de partout en France et au-delà, pour une mobilisation plurielle qui se donne comme objectif de mettre fin à ce chantier. Symbole national de l'accaparement de l'eau au profit d'une minorité et du maintien d'un modèle agricole aussi toxique qu'anachronique, les méga-bassines se sont vues projeter cet été au cœur de l'actualité. La sécheresse historique et systémique que nous venons de vivre ne fait que révéler encore plus brutalement l'inadaptation intrinsèque d'une certaine agriculture aveuglée par le productivisme. Celle-ci vise aujourd'hui à démultiplier les bassines pour se maintenir coûte que coûte, malgré la crise climatique que ce modèle agro-industriel participe amplement à aggraver. Naturalistes, riverains et riveraines, paysans et paysannes et scientifiques n'ont pourtant eu de cesse de démontrer l'impact délétère de ces bassines et du pompage accru dans les nappes, y compris en hiver, sur des réseaux hydrologiques extrêmement fragilisés et sur les milieux naturels qui en dépendent. Au vu de la contestation, le chantier test de Mazuet sur le Mignon, première d'une nouvelle série de bassines, a été durant l'année passée un calvaire pour ses promoteurs, que ce soit pour l'État ou pour les dirigeants irrigants organisés en société anonyme. Face aux diverses actions menées, rendez-vous hebdomadaires, envahissement du chantier, désarmement de plusieurs engins, mobilisation répétée de milliers de personnes, les difficultés de réalisation et les coûts de surveillance se sont démultipliés. Les irrigants de la préfecture sont-ils vraiment prêts à voir ces coûts se reproduire à chaque nouveau chantier? On peut en douter, d'autant que la présence et la pression policière qu'ils engendrent pèsent lourdement sur les riverains et les riveraines, qui constatent jour après jour l'assèchement de leurs cours d'eau. Pour le mouvement de contestation contre les méga-bassines, ce premier chantier a plutôt été un catalyseur qui ne fait qu'amplifier et fortifier sa détermination. Ce mouvement assume aujourd'hui la nécessité de la désobéissance civile quand les crimes contre l'eau et les terres sont appuyés par le gouvernement. Il a pris une dimension nationale avec la défense et le partage du commun emblématique qu'est l'eau. Il travaille localement à d'autres projets de territoire alternatifs compatibles avec les enjeux climatiques. C'est l'antagonisme entre deux visions de l'agriculture et in fine du vivant qui s'est clarifié. L'une agro-industrielle dopée aux intrants chimiques qui achève la privatisation des ressources communes dans une logique de court terme. L'autre paysanne, guidée par l'urgence absolue de prendre soin du vivant, de la mettre en partage et d'en maintenir la diversité et la fertilité. Dans les Deux-Sèvres, les lobbies pro-bassines se sont vus récemment infliger un désaveu réaffirmé. La Cour d'appel a décidé, après plus de 10 ans de procédure, de ratifier l'illégalité, du fait de leur impact environnemental, de 5 bassines mises en œuvre par l'ASA des Roches. Des opposants et des opposantes avaient pris les devants ces derniers mois. Deux de ces bassines avaient été préventivement démantelées, dont une le 6 novembre dernier par plusieurs milliers de personnes, tandis que la Confédération paysanne revendiquait le démontage de sa pompe. Mais les clans pro-bassines, en plein déni de réalité, s'entêtent encore. Des méga-bassines continuent à être planifiées partout dans le pays. Nous sommes à un moment charnière où nous devons unir nos forces à l'échelle nationale et internationale pour leur faire comprendre que chaque nouveau chantier aura un coût politique et économique ingérable. Puisque le gouvernement, cul et chemise avec l'agro-industrie et la FNSEA, malgré tous les effets d'annonce sur une éventuelle planification écologique, reste incapable de prendre la décision à minima d'un moratoire, nous le mettrons en œuvre nous-mêmes. Le premier chantier a succédé à celui de Mazé sur le Mignon et celui de la méga-bassine de Sainte-Soline. Avec 720 000 m3, elle est la plus grosse des méga-bassines en projet, au beau milieu d'un site classé en zone Natura 2000 pour les oiseaux de plaine. Alors les oiseaux, c'est les busards cendrés, les odichnem criards pour ceux et celles qui connaissent, et constitue un enjeu vital pour la sauvegarde de l'outarde canepetière. Depuis le 28 septembre, le site est encerclé par des grilles. Il risque d'être progressivement enclavé par une cohorte de tractopelles et verra ses environs quadrillés de réseaux de pompage de tuyauterie. Mais nous pouvons encore leur faire faire machine arrière. Nous nous rassemblerons donc pour mettre fin au chantier le week-end du 29-30 octobre, et plus si nécessaire. Nous y parviendrons par une pluralité de formes d'intervention et de présence créative, à l'image de la diversité du mouvement, avec la présence conjuguée de ces forces écologiques, syndicales et paysannes, de personnes de tout âge et de toutes conditions physiques. Il faut savoir qu'en plus de la manif, c'est tout un week-end qui vous attend dans les Deux-Sèvres si vous avez encore envie de partir. Il y a des espaces d'accueil qui permettent de camper, de se restaurer, de débattre d'autres modèles de partage de l'eau. Des balades naturalistes seront proposées. Et comme à chaque mobilisation du mouvement Les Soulèvements de la Terre, la fête sera aussi au rendez-vous avec de nombreuses interventions de groupes et des artistes venus en soutien. Alors, on sait bien que les Deux-Sèvres, c'est loin. Après, c'est intéressant, hein, ces mouvements qui ont lieu depuis... un petit temps là des soulèvements de la terre qui permettent à divers collectifs écologiques, mais pas que, de se réunir sur des luttes locales, de savoir qu'est-ce qu'on se réapproprie, qu'est-ce qu'on réapproprie en termes et de paysannerie, mais aussi en termes de biens communs, que ce soit l'eau, que ce soit les terres, que ce soit les questions de production énergétique, et ne serait-ce que pour ces rencontres, et évidemment contre ce projet à Sainte-Soline, ça vaut peut-être le coup de prendre la voiture, j'ose te dire, ou le train pour aller dans les Hauts-de-Selve. Si vraiment on le comprend, vous restez à Lyon. Il y a la Biennale Trace qui propose pas mal d'événements ces derniers temps, et dont dimanche à 18h au Théâtre des Célestins, une table ronde avec Cécile Canu autour de « Coloniser par la langue ». C'est à l'occasion du spectacle « Colonisation » de Salim Jaferi qui met en scène une enquête sur l'usage des mots dans le contexte de la guerre d'Algérie. Le Théâtre des Célestins et le Festival Trace a invité Cécile Canu à présenter ses deux livres « Provincialiser la langue et langue ». Voilà, ça a l'air d'être très sympa, c'est à 18h. Et c'est aussi dans le cadre du festival Sens Interdit. Sinon, le 3 novembre, ça c'est la semaine prochaine, mercredi prochain, vous pourrez aller à la fin et au renouveau de la permanence de santé à l'ECG, l'espace communal de la Guillotière. La permanence de santé de l'ECG est un collectif qui s'est monté au printemps 2021. En septembre dernier, elle faisait le bilan de ses permanences et de ses actions. En se disant qu'ils actaient un peu la fin de celle-ci tout en ayant envie de continuer à faire des actions ensemble. Le 4 octobre dernier, il paraît que vous avez été quelques-uns et quelques-unes à manifester votre intérêt pour ce collectif. Dessignez-vous. Et donc, vous êtes invités chaleureusement jeudi 3 novembre à 18h30 au Jusqu'ici à une réunion publique. C'est chouette ces collectifs qui passent la main. Du coup, on vous invite à continuer à faire vivre la permanence de santé de l'espace communal de la Guillotière en vous rendant au Jusqu'ici jeudi 3 novembre à 18h30 au 169 Grande Rue de la Guillotière.
Bonjour, je m'appelle Lily et j'ai 8 ans. Je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la plus nulle des radios.
Alors c'est vrai qu'au début de l'émission, on n'a pas donné le numéro de téléphone, mais on nous a quand même appelé. Et maintenant, les gens le connaissent par cœur.
Et oui, on peut vous le redonner, hein, c'est le 04 78 39 18 15. Il est encore temps, auditeur, auditrice, de nous dire ce que ça veut dire ACAB pour ce soir.
En tout cas, là, les personnes qui ont appelé pendant l'émission nous ont dit que ça voulait dire, entre autres, amical contre l'avènement des bassines.
Alors moi, j'ai noté un petit appel vers 19h33 qui disait « L'arbitraire du contrôle appelle le blocage ».
Et ben voilà. Est-ce qu'on a eu d'autres appels ?
Eh ben oui, parce qu'il y en a un autre, mais c'était plutôt en début d'émission qui disait « Alimenter nos caisses avec du blé ». Je pense que ça parlait des caisses de grève.
Et ben parfait. Alors là, du coup, ouais, il reste encore 10 minutes avant Noise Pollution.
Et oui, et nous, du coup, et ben c'est fini.
Oui, voilà, c'est fini. Et on va vous laisser avec les bandes continues.
Les bandes continuent quand même, le cœur de Radio Canu. Et puis on vous dit à bientôt pour de prochaines infos et puis surtout sur les différents rendez-vous.
Ciao.
Au revoir.